With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans Super Laser Punch, un podcast où on parle de trucs Marvel. On, comme j'aime à le dire, se vautre dans notre fanitude. Moi, je suis très certainement hyper fan du Marvel Cinematic Universe. Je suis Patrick Béja et je sais que un certain Johan T est également assez fan du MCU. Comment ça va, Johan ?
Eh ben, ça va moyen parce que je suis quand même plutôt malade, mais ça va super bien quand même parce qu'on va parler de WandaVision et que je suis ravi de parler de WandaVision.
Écoute, je t'ai dit juste avant de lancer l'enregistrement, allez, punchy, aujourd'hui on est en forme et je vois que tu as pris mes conseils à cœur.
Oui, bien sûr.
C'est vrai que on a un épisode assez touffu à débriefer, l'épisode 6 de WandaVision. Alors, il y a tellement de choses à dire. Je commencerai en disant que, à première vision, c'était pour moi le moins bon de tous les épisodes jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je l'ai trouvé un petit peu moins virtuose que les précédents.
Alors, c'est celui où j'ai le moins compris de choses en premier visionnage. Par contre, j'ai adoré vraiment. Alors là, par contre, c'était un de mes préférés pour la partie sitcom. J'ai vraiment adoré le ton, les gamins... Enfin, toute cette ambiance-là, j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment au top. Et à contrario, la partie Sword, plutôt très décevante. On pourra en reparler un peu tout à l'heure.
Ouais,
mais
bon,
du coup, ça laisse un goût un peu moyen, on va dire, à la fin, quoi.
C'est vrai que c'est peut-être parce que c'est vraiment Malcolm in the Middle ou Malcolm. Et moi, c'est pas une série que j'avais beaucoup suivie. Et même si je connais le style et il y a d'autres séries qui étaient dans ce genre-là, là, on était pile dans les années 90 et Malcolm avec la caméra un petit peu intégrée à l'émission, etc. Et c'était cool quand même. Je dis pas que c'était un mauvais épisode, mais il était, je trouve, moins éblouissant que les autres. Avec ceci dit, quand même, le fait que quand on va plonger dans les détails et les interprétations et les easter eggs et tout ça, il y a quand même énormément de choses à détailler, quoi. Là, c'est un florilège, autant que dans le 5, je dirais, peut-être même plus, avec des trucs hyper... qui viennent brouiller les pistes par rapport à ce qu'on pensait savoir du début à la fin, en fait. Tous les trucs dont on disait « Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. » Là, on se dit « Bah non, en fait, ça va complètement à l'inverse de ce qu'on pensait. » Et donc, je suis confused, moi, Johan. Je sais pas
ouais,
du tout.
Ouais, pareil. Du coup, c'est l'épisode que j'ai le plus regardé, du coup. Et quasiment, là, jusqu'à ce matin, je l'ai regardé à nouveau. Et il y a des choses qui me sont encore sautées au visage avec encore un visionnage de plus. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Comme tu le dis, il y avait des certitudes qu'on avait. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve un petit peu pris au dépourvu. Donc, on va pouvoir parler de tout ça.
Tu les vois combien de fois, généralement, les épisodes ?
Alors, en général, je les vois deux fois, puisque je les regarde à zap quand ils sortent. Et puis, je les re-regarde après avec ma femme, ce qui me permet d'être un peu plus observateur sur les détails. Là, j'ai dû le regarder quatre fois, je pense.
Quatre fois ! Ah ouais, d'accord, quand même, ouais, sérieux. Ouais. Très, très bien. J'admire ta dédication à oncle Kevin et au MCU. C'est très bien. Alors, bon, on va commencer plus ou moins de manière chronologique, mais après, on va... On va sauter à droite à gauche parce qu'il y a beaucoup de choses qui trouvent des échos dans la suite de l'épisode. On peut commencer simplement avec le générique d'ouverture, les crédits.
Même avant ça,
ah ouais,
c'est sur le Previously. Alors du coup, je ne suis pas allé retourner voir les anciens, mais j'ai l'impression que c'était peut-être un des plus longs Previously qu'on ait eu, avec des choses assez notables, je trouve. Ils mettent l'emphase sur le fait que voilà, que Vision est en désaccord avec Wanda et qu'il ressorte la phrase que, où il dit à Wanda que tu peux pas me contrôler. Donc ça, il y a clairement un focus là-dessus. Et on remontre du coup le Pietro, les séquences de la mort de Pietro dans
Age of Ultron.
Age of Ultron, voilà. Avec du coup, effectivement, le Pietro qu'on connaît nous. Et puis, j'imagine
sur
que c'est
le fait que
n'a pas forcément compris à l'épisode précédent. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment assez long par rapport à d'habitude. En tout cas, ça m'a un peu sauté aux yeux.
Pardon, vas-y.
Non, j'allais dire qu'après, du coup, ils enchaînent directement sur le générique.
Générique, au-delà du fait que c'est vraiment Malcolm in the Middle et que c'est, on va dire, un style qui est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec les gamins qui tiennent la caméra, etc. Là, on a dans les choses qui sont au générique des indications sur ce qui est plus ou moins important. Et on a, par exemple, le fait que Agnès est au générique et elle ne l'était pas, je crois, avant. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle n'y était pas.
Je pense aussi qu'elle n'y était pas.
Et on a Pietro Maximoff qui est As Himself. Et il y a, bien sûr, dans les génériques, il y a souvent machin As Himself. Mais là, le fait que ça soit Pietro Maximoff As Himself pour insister que c'est bien Pietro et pas une autre entité qui aurait pris le corps de Pietro. Mais en fait, ça peut vouloir dire que c'est dans le générique et donc c'est pas tout à fait le cas, etc. etc. C'est assez intéressant. Et donc, le truc commence avec les deux gamins, le cool et le nerd. Billy qui est c'est Tommy qui est Speed et Billy qui est Wiccan, qui ont plus ou moins leur costume, surtout Billy, parce que c'est Halloween. Et donc, ils sont en train de se préparer à Halloween. Et déjà, Billy, qui est Wiccan, qui a donc les pouvoirs plus ou moins de télépathe, de contrôle de la réalité de sa mère, il est un petit peu inquiété par Pietro. Il veut pas le réveiller, il dit « Ah non, mais je crois que c'est un vampire, machin. » Et il est déjà un petit peu inquiété, alors que Tommy, il est genre le petit facétieux qui fait des conneries, quoi.
Et c'est lui qui parle à la caméra, d'ailleurs. C'est Billy qui s'adresse à la caméra. Donc effectivement, le changement de ton est assez radical parce que du coup, on est quasiment un peu sur le point de vue en tout cas de Billy et en tout cas des enfants. Effectivement, il a l'air de s'inquiéter, de pas être super confiant vis-à-vis de l'oncle Pietro qui a débarqué.
C'est ça.
Et à contrario, son frère, lui, a l'air d'être super fan du coup de l'oncle cool. Et on va voir qu'il va se laisser un petit peu manipuler, mais plutôt
influencé,
voilà, c'est ça, par l'attitude de son oncle.
Alors, il y a Wanda et Vision qui descendent de l'escalier et Wanda qui est en diseuse de bonne aventure sokovienne. J'ai trouvé l'explication des costumes un petit peu paresseuse. Je trouvais que dans l'épisode précédent, justement, je vantais la manière dont ils amenaient tous ces détails, tous ces trucs. Là, j'ai trouvé que la diseuse de bonne aventure, ok. Le costume de Vision, c'est genre « Ah, je suis un luchador !» peut-être. Et puis surtout, Pietro, quand il disparaît et qu'il revient avec son costume de Quicksilver, son costume de Quicksilver des comics, là, il n'y a carrément aucune explication. C'est pourquoi c'est ça ? Tu vas très vite parce que tu as tes pouvoirs de super-héros, mais pourquoi est-ce que ça donne ce costume ? Ils n'ont même pas essayé de le justifier avec ses cheveux débiles. J'ai trouvé ça un peu paresseux, on va dire. Mais bon, c'est peut-être un détail.
Là, c'était vraiment... je pense que c'est vraiment des références, un peu pour la référence, pour le coup. Ouais. Alors, je trouve ça vraiment très sympa de les avoir intégrés comme ça, surtout j'aime bien le côté bricole, surtout du costume de Vision.
Ouais, mais généralement, ils expliquent, tu vois. Il y a des justifications. Là, il n'y en a pas vraiment, je trouve. Mais bon.
Et d'ailleurs, j'imagine que tu as noté aussi qu'il reproche à Wanda que c'était la seule chose qu'il avait à se mettre dans son placard en se levant. Et Wanda lui bug un petit peu et lui, après, il a l'air sérieux et puis tout d'un coup, il revient un peu sur le ton de la sitcom juste après. Mais effectivement, probablement qu'il a pas eu le choix, quoi. Il s'est levé, il avait que ça à se mettre et donc il l'a mis parce que c'est comme ça, quoi.
Ah, ça, j'avais pas remarqué. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il dit à un moment, quand il parle à Wanda et de leur jeunesse, il parle d'un souvenir que lui, il a de quand il faisait Trick or Treat, quand il faisait Halloween en Sokovie. D'ailleurs, lui déguisé en Nick Fury et elle déguisée en Black Widow. Ce qui est étrange, d'ailleurs, parce qu'à cet âge-là, ils auraient pas dû il n'y aurait pas dû y avoir ces personnages, ou pas connus en tout cas. Mais bon, ils sont comme ça, et elle, elle ne s'en souvient pas. Donc, c'est un peu genre, est-ce que c'est des vrais souvenirs ou pas? Parce que plus tard dans l'épisode, et on va y revenir, il a vraiment les souvenirs du Pietro du MCU, de son frère à elle. Et, il a, et donc, ils établissent que... Alors, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Il dit « Ah oui, je suis mort, je m'en souviens comme un débile dans la rue. Et après, tu m'as appelé et je suis revenu. » Et il insiste sur le fait que même quand elle le teste pour savoir si vraiment c'est bien lui, parce qu'elle, elle comprend pas qu'il n'a pas le même visage. Enfin, pourquoi? Et ils insistent pour montrer que c'est vraiment les souvenirs de Pietro du MCU. Ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui a acquis ses souvenirs, mais elle... Elle a des doutes et l'histoire de « on est allé faire Halloween tous les deux quand on était enfant et on nous a donné un poisson pourri à partager », elle, elle ne s'en souvient pas. Donc, c'est un peu... Il y a encore un doute là-dedans dans l'identité de ce Pietro.
Je pense qu'on peut parler de Pietro un petit peu en général sur l'épisode, pour essayer de focus un peu la discussion sur lui. Juste avant, pour revenir ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'avait plus qu'un seul, enfin qu'il n'avait que ça à se mettre, c'était à propos de Vision. Hein. Vision, il s'est levé, il est descendu.
Ah oui, oui, d'accord.
Et il reprochait à Amanda, voilà, qu'il n'avait que ça à se mettre. En tout cas, pour parler de Pietro, effectivement, c'est très étrange parce qu'on a l'impression déjà qu'il a conscience d'être dans cette sitcom. Mmh. Quand Billy parle à la caméra, à un moment donné, on le voit faire un regard en coin vers Billy comme s'il trouve étrange que Billy s'adresse à. Dans le vide ou à la caméra, donc il a cette conscience de ce qui l'entoure là, et puis à plusieurs moments il va poser effectivement des questions à Wanda. Donc effectivement, comme tu disais, Wanda se méfie un peu, elle essaie de le tester sur son accent ou sur différentes choses, mais en même temps à chaque fois il lui renvoie un petit peu les questions, et lui-même il a l'air d'être parfaitement conscient. Il y a ce moment où, donc en fait on est le jour d'Halloween, donc il y a des enfants partout, et où il va poser la question, mais du coup en fait ils sortent d'où les enfants? Ah, je suppose que le reste du temps tu les laisses endormis chez eux pour pas les torturer.
Ouais, c'est encore plus que il est conscient que c'est un film ou que c'est, tu vois, une pièce de théâtre. Il est conscient que c'est elle qui contrôle tout, ça le dérange pas. Et il dit effectivement ça. Par contre, c'était super bien trouvé parce que je me suis dit au début, mais maintenant il y a des enfants partout. Il disait l'épisode précédent, où sont les enfants? Est-ce qu'ils vont au moins adresser ce problème? Et ils mettent longtemps, c'est genre au bout de, je sais pas, 15 minutes d'épisode, où enfin Pietro dit « Ah, mais alors, tu les avais foutus où, les enfants, jusqu'à maintenant? » Parce que ils étaient donc dans leur lit.
Et elle dément pas, hein. Elle réagit en disant ouais, mais du coup, enfin ça va, tu trouves pas ça mal? Et puis il fait ah non, c'est super, c'est bien d'avoir joué la carte de l'éthique, enfin tu vois.
Ouais. Et il dit même ah mais c'est bien, en plus les gens tu les as pas trop éloignés de leur personnalité d'origine d'en dessous, donc c'est pas mal, tu vois, c'est bien. Et il a vraiment conscience de tout ce qui se passe. Et il dit même à un moment mais enfin moi je fais ce que tu veux, je suis censé être l'oncle cool qui arrive, qui fout un peu le bordel, qui éclipse un peu le père et qui se transforme en father figure, en figure paternelle. Et au final, bon, je te fais, c'est intraduisible. Il dit I'm here to give you grief, donc te faire de la peine, mais te faire ressentir du deuil. En fait, c'est un terme qui a un petit peu deux significations en anglais. C'est genre te faire chier un petit peu, et grief, c'est aussi le deuil. Et donc Pietro est là et il dit je suis là pour te faire ressentir du deuil, ce qui pourrait, on a tourné autour du pot et du Pietro, ou du pot de yaourt Yo Magic, parce qu'en fait ça pourrait vouloir dire que c'est effectivement Mephisto qui s'est incarné dans le corps de Pietro, qu'il a pu trouver, qui n'était pas le corps du vrai frère de Wanda mais celui d'un autre univers, et que enfin ça devient mais ça pourrait être Mephisto, une des théories très nombreuses.
Il y a effectivement ce moment où il dit clairement je suis là pour jouer mon rôle.
Ouais.
Et puis il décrit tout son plan, quoi. J'étais censé arriver de façon inattendue, créer une tension avec ton mari, faire des ennuis avec les
gamins.
Les gamins. Et puis te donner du griffe, comme tu disais. Et puis après il rajoute c'est bien ce que tu voulais, quoi.
Ouais.
Et ça, c'est étrange parce qu'effectivement, avec ce personnage-là, on varie du moment où est-ce que c'est vraiment un personnage, est-ce que c'est vraiment Pietro ou un autre personnage qui effectivement joue un rôle, ou est-ce que c'est une entité plus précise qui est là incarnée. Voilà, donc là, c'est ça, c'est effectivement, je pense que c'est volontairement réalisé comme ça pour qu'on ait qu'on se doute. Moi, je note quelque chose, et ça je l'ai noté un peu au dernier moment ce matin, justement, c'est qu'en fait, il a complètement remplacé Agnès, en fait. C'est-à-dire que elle n'est plus là. Donc, elle était dans le générique, par contre, elle n'est plus là, alors qu'elle était omniprésente. On l'avait noté la dernière fois près des enfants. Elle débarquait à l'improviste avec ce qu'il fallait à chaque fois au bon moment. Il y avait l'histoire du chien qui était mort. Et voilà, donc là, elle n'est plus là. On va la retrouver
donc,
un peu plus tard.
Peut-être que son maître Mephisto l'aurait, en arrivant sur la scène, l'a écartée, ou en tout cas, il n'a plus besoin d'elle et il a pris sa place. Il va dire, ah, c'est bon, je vais le faire moi-même, quoi. Je vais faire le boulot.
C'est
tout
un peu
seul.
Ce que je pense. Alors, je ne sais pas si c'est Mephisto, mais en tout cas, clairement, le rôle a été recasté aussi, dans le sens où
elle a été évincée de la série. Quoi.
Elle n'a pas réussi à faire quelque chose, j'ai l'impression. Et du coup, ça m'a rappelé. Au moment de la mort du chien, où elle découvrait que Wanda pouvait ressusciter les morts par les enfants et qu'elle avait l'air très très inquiète en disant « Ah, c'est vrai, tu peux faire ça, mais... » Et tu vois, elle n'avait pas l'air bien du tout. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un truc pivot à ce moment-là sur ce personnage-là et du coup, elle a été remplacée au pied levé par Pietro au dernier moment pour sauver du coup le plan initial, j'ai l'impression. Et elle, en attendant, on a l'impression qu'elle essayait de se faire la malle. Donc, on va la retrouver après, mais...
Justement, on va y venir dans un instant, enfin dans un moment. Il y a quand même, on en a parlé, mais il y a les scènes où Pietro et les enfants vont tous dans la ville à Halloween et il leur fait faire toutes les conneries qu'ils peuvent avec Tommy qui devient Speed, donc un mini Pietro, et ça n'a l'air d'inquiéter personne. Il a des super pouvoirs comme Pietro, ok, très bien. Et il y a cette scène étrange avec Herb qui est déguisé en Frankenstein. Donc là encore un personnage mort, et ce qui pourrait vouloir dire que Herb a dit, quand il voulait dire mais parce qu'on est tous, mais en même temps ils sont pas tous morts, parce que, enfin ils peuvent pas tous être morts, si peut-être, mais ça serait vraiment étrange, mais bon, bref, Frankenstein, et il a des informations sur ce que fait Pietro, les conneries que font Pietro et les enfants, avant qu'elle n'arrive, ou alors quelqu'un lui dit qu'ils sont en train de faire ça de l'autre côté de la ville et puis ils viennent très vite ici et donc ils les voient faire la même chose à côté d'eux. Mais bon, je sais pas, c'était un petit peu étrange, un petit peu décontenant sans le personnage.
Je pense que c'est juste une mécanique de. Ils sont à l'autre bout de la ville et le temps qu'il a l'information, c'est en train de se réaliser à côté de lui. Je pense pas qu'il y ait de prémonition. Ouais. Mais effectivement, il a l'air un peu comme d'autres personnages qu'on a vus avant, où il redemande à Wanda si c'est bien ce qu'elle veut, s'il veut qu'on change quelque chose. C'est toujours un peu... On sent qu'elle est maître de tout, et en même temps, elle est surprise aussi qu'on lui demande ce genre
c'est
de choses-là.
C'est ça qui est bizarre. À chaque fois, elle est surprise. À aucun moment, elle dit non, c'est bon, continue. Ou tu vois, à chaque fois, c'est genre, mais... comment ça ? De quoi ? Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est pas... Dans cet épisode... C'est celui qui set-up le plus Wanda comme la grande méchante de la série. Et moi, j'espère que c'est pas elle la grande méchante, j'espère qu'elle est manipulée, mais c'est là qu'on est le plus dans cette direction. Et en même temps, on a des éléments qui font qu'on voit qu'elle comprend pas trop non plus, quoi. Donc, je sais pas quoi en penser au final. Et d'ailleurs, on a vu aussi Pietro... comme elle a vu Vision mort à la fin de l'épisode 4, elle voit Pietro mort là, et c'est Pietro Peter Evans, donc l'acteur qu'on voit ici, et pas comment il s'appelle l'autre qui a un nom en trois, bref, l'autre qui d'ailleurs était dans Kick-Ass avec Peter Evans. C'est marrant parce qu'ils disent à un moment Kick-Ass, et il dit Kick-Ass. Ouais. bon, bref, on passe à la pub. Sur Yo Magic. Je t'avoue que j'ai pas trop bien compris le yaourt Yo Magic. Alors, avec le gamin qui le prend par le requin qui débarque de nulle part comme un truc de céréales des années 80, effectivement, mais toi tu as tout compris.
Moi j'ai une théorie là-dessus. Alors du coup, je vais juste décrire un peu la pub. Donc en fait, on a un jeune garçon qui est seul sur une île déserte, qui a l'air affamé, et donc il dit qu'il mangerait n'importe quoi. Là, il y a un requin, donc un prédateur, qui arrive et qui lui dit: ouais, je me sentais comme toi avant. Jusqu'à ce que en anglais c'est snacked on your magic. Donc si on traduit en français avec le yo,
j'ai grignoté ta magie, quoi.
J'ai grignoté ta magie. Et du coup, il lui donne ce pot de yaourt et le gamin n'y arrive pas à y avoir accès et le temps passe très vite. Enfin, il y a une accélération du temps. On voit les levées de soleil au fur et à mesure.
Un 8 jours d'ailleurs.
Ah d'accord, j'ai pas compté ça. Mais du coup, ça m'a fait penser du coup au temps qui passe beaucoup plus vite hein, dans Westview par rapport à l'extérieur hein, où tout se passe en une nuit quasiment. Et du coup, le personnage, donc le garçon, finit par devenir un squelette tellement voilà, il meurt de faim et puis un squelette. Donc moi j'avais l'impression, alors déjà elle est très notable cette pub parce que donc les pubs d'avant, donc les quatre pubs qu'on avait eues avant faisaient toute référence par ordre chronologique à des traumas de Wanda. Et donc la dernière qu'on avait eue c'était Lagos. Donc c'est ça, moi je m'attendais à voir du coup d'autres traumas. Il y avait des choses qui n'avaient pas encore été traitées, justement la mort de Pietro. Bizarrement, il n'y a pas eu de pub en lien avec ça, alors que bon, c'était peut-être son événement le plus traumatique qu'elle ait pu vivre, j'imagine. Mm-hmm. Et du coup, là on bascule sur autre chose, j'ai l'impression. Et du coup, moi, alors ce personnage qui se sent seul sur une île déserte, ça m'a fait penser du coup peut-être à la façon dont se sentait Wanda. Elle le décrit à un moment donné à Pietro, ils discutent,
ouais,
elle
tout
dit
à fait, ouais.
Je me sentais seule, vide, etc. Et que du coup, il y ait une entité tierce, donc un prédateur, qui est là pour se nourrir de sa magie. Et pour se nourrir de sa magie, il a peut-être besoin qu'elle se construise ce monde-là, qu'elle utilise sa magie en continu pour faire tout ça, et que potentiellement, il se nourrit dessus, et qu'au fur et à mesure, elle va finir par en manquer. Ça peut expliquer, j'imagine, peut-être les pertes de contrôle. Le fait que plus tu t'éloignes d'elle, maintenant, il y a des gens qui sont complètement à l'arrêt complet, alors que avant, Vision pouvait aller de son côté chez au club de surveillance de quartier ou à son travail. Là, maintenant, j'ai l'impression que quand il s'éloigne, les personnages sont de moins en moins bien contrôlés.
Ouais, on va en parler justement de Vision qui s'éloigne tout à l'heure. Mais...
Ouais, ouais. Du coup, voilà, moi, cette pub au début, j'ai vraiment rien compris. Et puis, en le revoyant la deuxième fois, j'ai un peu tilté là-dessus avec le discours.
Mais pourquoi est-ce que le gamin n'arrive pas à ouvrir le truc de magie? Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à prendre sa propre magie ou elle perd le contrôle sur sa magie? Bon, c'est un peu. J'imagine qu'on le saura à la fin de la série, quoi.
J'imagine qu'on aura peut-être un peu plus de vision, mais effectivement. Je pense que maintenant les pubs ne font plus appel effectivement au passé de Wanda et plutôt à ce qui est en train de se passer.
Mmh, c'est possible, ouais. Encore que c'est peut-être un truc qui s'est passé il y a quelques jours avant qu'elle ne soit. Ouais, bon.
Oui. Ouais, c'est possible.
Donc, parlons justement de Vision qui a dit qu'il était parti en patrouille et dont on a appris que c'était pas le cas. Et il s'éloigne du centre de la ville, il va vers les extrémités, les endroits plus éloignés dans la ville. Et il se rend compte que le contrôle qui est exercé sur les habitants est de plus en plus compliqué et inquiétant, puisque certains sont juste en train de faire deux gestes. Bon, vous avez vu l'épisode, hein, donc vous savez, deux gestes, et ils sont genre vraiment prisonniers de leur propre corps à ne rien pouvoir faire. Ils sont immobiles, et on voit cette scène glaçante avec la nana qui a une larme qui lui coule le long de l'œil parce qu'elle elle est prisonnière, on le voit bien. Et il continue à s'éloigner. Et ah oui, d'ailleurs, entre parenthèses, un truc à propos de Vision, Pietro dit à un moment, de toute façon, c'est pas comme si ton mari avait pu mourir deux fois, hein. Et c'est pas comme si ton mari pouvait mourir deux fois. Mais Pietro, s'il était effectivement mort au moment où il est mort, il sait pas que Vision est mort, parce qu'il n'a pas vécu les événements d'Infinity War. Donc là encore, c'est un... Bref. Et Vision s'éloigne, il finit par se dire, ok, c'est terminé ces conneries, il reprend son costume d'Avenger. C'est la première fois d'ailleurs dans la série, je crois, qu'il a son costume d'Avenger normal. Quand il voit Agnès, enfin la voiture d'Agnès, qui est quasiment au bord de la ville, sur l'avenue Ellis, du président Ellis sans doute, et elle est coincée au volant de sa voiture, mais pas complètement immobile, contrairement aux autres personnes qui sont un petit peu plus proches encore du centre et de Wanda. Et donc, c'est vraiment un personnage particulier. On a cette scène où elle lui dit mais t'es un Avenger. Et lui, il se souvient de rien. T'es un Avenger, t'es là pour nous sauver. Est-ce que je suis morte? Et il dit, mais non, pourquoi? Et tu dis, mais parce que toi, tu es mort. Et elle se met à rire comme une sorcière encore, et elle est déguisée en sorcière. Et là encore, c'est une scène super étrange, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on pensait d'Agnès, qui était partie prenante de cette mascarade dans nos théories, et là, elle semble vraiment être, certes, une sorcière, donc peut-être encore liée au truc, mais complètement victime autant que les autres, quoi. Ou pas autant, mais dans la même lignée. Et bon, c'est très confusing, je dirais.
Voilà, donc c'est ce que je disais, effectivement. Enfin, moi, j'étais vraiment parti sur effectivement ce personnage qui était libre de ses mouvements, mais qui jouait le rôle volontairement. Et là, tout à coup, c'est plus le cas. Elle est clairement figée, elle est clairement désemparée à ce qui est en train de lui arriver. Elle pense que tout est perdu. Et donc, ouais, ça m'a un peu travaillé quelques jours. Et c'est là que j'ai pensé qu'effectivement, il avait dû se passer quelque chose entre effectivement l'épisode d'avant et celui-ci. Qu'elle se fasse à la fois évincée de son rôle auprès des enfants et en plus qu'elle soit à la frontière comme si elle avait voulu justement
elle a voulu partir,
sortir, ouais. Parce que du coup on apprend hein, que cette fameuse avenue c'est Ellis Avenue je crois, c'est par là qu'il faut aller pour sortir de la ville, et donc j'ai l'impression qu'elle était partie pour s'enfuir et qu'elle a été rattrapée par quelque chose. Est-ce que c'est Wanda, est-ce que c'est une autre force, mais en tout cas elle a été à nouveau capturée à ce moment-là. Et donc bah, j'espère en fait là j'en suis moi quand même à espérer qu'on ait à nouveau un flashback à un moment donné dans la série pour montrer un peu ces choses-là qui auraient pu se passer, donc on verra. Il reste trois épisodes, mais
il reste trois épisodes. J'aimerais bien qu'il y ait effectivement des choses surprenantes, enfin, un flashback qui nous montre tout, peut-être pas tout parce que ça casserait un peu la magie. Mais, ah oui, d'ailleurs, dans le générique, il parle de « Don't fight the chaos », et normalement, Wanda, elle manipule la magie du chaos. Donc, il y a ça, « Don't fight the chaos »,« We don't know what's happening », ou un truc du genre. Enfin, le générique est assez... Encore une fois, les paroles sont assez inquiétantes. Mais oui, j'aimerais bien qu'il y ait une explication de tout. Ça serait sympa qu'on voit ça dans un épisode très sérieux. Mais d'ailleurs, il reste trois épisodes, normalement. Il y en a neuf. Et on est à 3 heures, un peu plus de 3 heures de série jusqu'à maintenant. Donc, Kevin Feige a confirmé que les trois derniers épisodes restants feraient tous presque une heure. Donc, on va voir de quoi se mettre des choses sous la dent, a priori. Et je me demande, je pense pas, mais je me demande s'il n'y en aurait pas un dernier épisode bonus caché, tu vois, qui mettrait un dixième épisode avant le début de Falcon and Winter Soldier en mars. Mais bon, ça, on verra. Passons du coup,
alors, on a laissé Vision... On avait laissé Vision près de Agnès, et du coup, suite à ça, lui, il va essayer de sortir...
Bah, parlons justement du Shield, parce que après,
j'allais dire,
c'est...
ce que j'allais dire. Ouais. Du coup, autant parler du Shield, enfin du Shield, du Sword.
Ah non, pardon.
c'est vrai que bon, il y a des patterns qui se retrouvent, hein, donc.
Et c'est là, je pense que tu vas exprimer ta déception et ton désarroi la nature que prend le Sword, parce que effectivement, Hayward, en dehors du fait que le drone est un drone de Stark Industries, ce qui est pas du tout surprenant, hein, il faisait des armes encore à l'époque, mais Hayward révèle qu'il est à quel point il est vraiment le méchant. Un méchant de l'épisode, de la série. Et c'est presque. C'est vraiment caricatural, quoi. Et le parallèle avec le Shield qui était. Alors là, ça ne veut pas dire que le Sword est entièrement vérolé, mais le parallèle est même décevant, je dirais.
Bah oui, là, c'était. Enfin, moi, je trouvais déjà ça caricatural, l'épisode d'avant, et là, ça va encore plus loin. Donc là, il y a une claire confrontation entre lui et Monica. Et il met à l'arrêt du coup les trois persos principaux, hein, en tout cas c'est donc Darcy et Jimmy et Monica, il les met à l'arrêt sortez-moi ces gens de la base. Et c'est là où effectivement, alors déjà il y a cette confrontation un peu caricaturale, bon, qui m'a pas trop plu, mais en plus derrière on a un peu une succession d'événements que je trouve un petit peu cheesy, un petit peu série télé un peu bas de gamme, avec la petite bagarre avec les gardes, on les assomme, on les enferme dans un conteneur, et je suppose qu'on espère qu'ils se réveillent jamais de la soirée. Puis après on va faire le hacking, donc la docteure en en ondes d'énergie.
En astrophysique, qui tout d'un coup s'est piraté les systèmes informatiques. Voilà. Ouais.
Le méchant qui apparemment a fait un dossier dans son ordinateur avec méchant.doc. Il y a son plan secret. Voilà, tout ça, moi, ça m'a un peu sorti du délire quand même. Bon, après, ouais, je sais aussi faire abstraction et me dire, bon, bah, c'est pas grave. Allez,
Je suis complètement d'accord. C'est vraiment... dans une série normale, ça passerait. Mais là, c'est vraiment la première fausse note où on se dit, bon, ouais. C'est pas hyper... ni hyper bien écrit, ni hyper bien mené... ni hyper bien réalisé, c'est vraiment standard, quoi. Là où on avait une excellence. Ouais. En fait, la série jusqu'à maintenant, je trouve, avait une excellence qui était digne du cinéma. Là, on retombe, entre guillemets, dans la série télé un petit peu classique, quoi. Je pense que ça peut se caractériser de cette manière. Il y a un truc que je dirais, pas pour défendre Hayward, mais pour donner un petit contrepoint, le seul moment où j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant, c'est quand il dit à Monica, d'ailleurs avec un ressenti assez net pour les super-héros, il dit « mais tu sais pas ce que c'était pendant ces 5 ans, tu sais pas ce qu'on a dû faire, tu sais pas ce qu'on a vécu et à quel point c'était difficile, donc viens pas me donner la leçon maintenant, quoi. » Ce qui retourne un petit peu la situation, parce que dans l'histoire, le destin tragique, c'est celui de Monica, qui a évidemment perdu 5 ans et perdu sa mère et perdu tout. Et là, on se rend compte que bah, peut-être que pour Hayward, même s'il était... il faisait bonne mine, il était genre content, pas content, mais bon, de bonne humeur... Eh ben peut-être que en fait les 5 ans pour un organisme qui est censé maintenir la paix sur Terre et ailleurs, peut-être que il s'est senti trahi par Carol Danvers d'une part, qui a été faire d'autres choses ailleurs plutôt que de les aider, et puis peut-être que c'était vraiment compliqué. Il y a des menaces qu'on n'a pas vues, il y a des choses qui se sont passées. Bon, je dirais qu'il y a un truc intéressant à explorer là-dedans, même si dans l'ensemble je suis d'accord avec toi, il est méchant, caricatural et décevant, quoi.
Ouais. Et du coup, là, pendant la petite phase de hacking, on apprend plusieurs choses. On apprend, alors, premier point, on apprend que Hayward est capable de suivre en secret les déplacements de Vision à l'intérieur de la bulle, en captant les, j'ai pas bien compris, les radiations de vibranium.
Le vibranium decay, ouais. Qui est, bon, sans doute, voilà. Une sorte de carbone 14 étrange.
Voilà. Bon, déjà, ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que il le cache, du coup, aux personnes externes du Sword et à Monica, ou est-ce que c'est vraiment que lui, sur son ordinateur personnel, qui voit ça et personne d'autre est au courant? Ça, je trouve ça un petit peu étrange. L'autre chose qu'on apprend...
Il y a clairement un truc qu'ils étaient en train de faire avec Vision dans ce labo.
Ouais. Oui.
Et d'ailleurs, je pense que tu allais y venir, mais l'histoire du projet Cataract, c'est évidemment...
Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, il a un dossier. Alors, on voit Darcy qui trouve un dossier qui s'appelle le projet Cataract. Donc, la cataract, c'est une perte de la vue, donc de Vision. Donc, moi, ce que j'imagine, c'est qu'il essayait effectivement de modifier Vision pour en faire une nouvelle arme, on va dire, contrôlée par le Sword. C'est un peu un projet classique, hein. Ça fait un peu juste un Ultron 2, en quelque
sorte. C'est ça, ouais. Ressusciter Ultron, en quelque sorte.
Voilà. Et l'autre chose qu'on apprend, c'est que, bah, du coup, ça y est, les molécules de Monica, elles sont officiellement elles sont officiellement réécrites 2 fois. Donc, et on sait que Hayward est au courant, et du coup, ça, j'imagine que ça pique sur le fait que Monica aime un peu trop les gens qui ont des super pouvoirs. Dans leur dispute. J'imagine que ça vient aussi du fait qu'il sait qu'elle est en train de développer quelque chose.
De son côté, ouais. Peut-être que, bah, comme on l'évoquait les épisodes précédents, il y a une histoire de gènes mutantes. Parce qu'ils disent au niveau moléculaire ou au niveau de l'ADN, je ne sais plus c'est ce qui est modifié, mais on imaginait que le fait de... Enfin, que Wanda pouvait activer les gènes mutantes, ou que le Snap avait activé les gènes mutantes, et que là, ça en rajoute. Enfin bref, oui, il y a des trucs qui se passent avec Monica, c'est clair.
Et du coup, alors, pendant qu'elle faisait ces recherches-là, les deux autres, donc Jimmy et Monica, eux, sont partis à la rencontre de l'ingénieur ingénieur spatial, où ils veulent fabriquer une machine pour rentrer à nouveau dans la bulle. Donc,
ils travaillent vite, d'ailleurs, cet ingénieur. Elle l'a appelé, genre, il y a 4 heures.
Oui, à 8.
Et d'ailleurs, donc,
j'imagine que c'est quelqu'un qu'on connaît, enfin, je pense.
On ne sait pas, hein, mais elle confirme que c'est un homme. Elle dit « he » à un moment, donc lui, plutôt que « elle ». Et donc, bah, on ne sait pas vraiment de qui il s'agirait. J'ai vu une théorie intéressante sur le fait que ça serait... tu te souviens le gamin du, de Iron Man 3
Ah oui, d'accord.
Que ça pourrait, ça serait marrant de le voir revenir. Bon, il est un peu jeune pour être un ingénieur en astrophysique, mais bon, pourquoi pas, hein, Darcy, elle est bien ingénieur en, je sais pas, astrophysique aussi, ils sont tous ingénieurs en astrophysique.
En tout cas, ouais, la façon dont c'est construit narrativement, je serais déçu que ça soit quelqu'un qu'on n'ait jamais vu et que...
Ouais.
Et que c'est juste ton pote astrophysicien, quoi. Enfin, ça serait un peu...
Ouais, qui peut construire des véhicules ouais, voilà, avec du LED et du machin et du truc pour les photons et du machin pour les neutrons.
Et... Et dernier détail important sur le hacking, c'est que Darcy, elle envoie le projet Cataract par mail à Jimmy Woo. Donc, on a l'adresse mail de Jimmy Woo si on regarde, si on fait pause au moment.
C'est quoi, c'est Jimmy Woo at fbi.email.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas Jimmy, c'est son nom complet. Là. Je sais James, plus le diminutif de quoi, Jimmy. Ouais, c'est
d'accord.
Ça.
Donc, effectivement, et on voit qu'on arrive du coup, on rejoint les deux univers du Sword et de la sitcom. Vision a trouvé le bord du Hex et il commence à pousser pour sortir du Hex. Et on se rend compte que contrairement aux autres, ou peut-être parce qu'il y a la nouvelle couche qu'a mis Wanda, et ben il se désintègre, ou peut-être parce qu'il ne peut pas exister en dehors du Hex. Il commence à se désintégrer en dehors du dôme. Et là, Darcy, qui est la seule à ne pas être insensible, clairement, dit « Mais aidez-le, aidez-le !» Et il l'attache. Donc, il la récupère, il lui met les menottes et la met sur la bagnole. Et qu'est-ce que comment tu interprètes le fait qu'il se désintègre, Vision ? C'est
bah,
un petit peu surprenant.
Je pense que c'est simplement parce que c'est une construction de la magie de Wanda, j'imagine, et que du coup, il n'existe pas sans cet univers-là. Alors, il y a juste...
Mais c'est étrange,
là que
parce
je me suis dit que la gemme sur le... C'est quoi ? C'est la gemme de l'esprit, là
La pierre de l'esprit.
J'ai l'impression qu'elle est réelle. Et sinon, oui, pour moi, c'était juste... C'est entièrement le fait que son existence ne doit être possible que par la magie de Wanda.
Ce qui est étrange, parce que les trucs qu'elle a construit...
On rappelle à la pub, du coup, peut-être.
Ouais.
La pub où il se désintègre parce qu'il n'y a pas accès. Et donc, du coup, il n'a plus accès à la magie et il se désintègre.
Ouais. Mais en même temps, les autres trucs qu'elle avait fait, qu'elle a créé, peuvent exister ailleurs, comme les vêtements de Monica. Mais...
Alors, peut-être que la différence, c'est que quand c'est quelque chose qui est modifié, ça reste modifié. Mais quand c'est quelque chose qui est entièrement construit de toutes pièces, peut-être que ça ne peut pas.
Il y avait déjà les pièces de Vision qu'elle a récupérées, justement. Ouais. Je trouve ça un peu... Bon, on verra comment ça s'explique au final.
Une différence entre les objets inanimés et les personnes conscientes.
Peut-être. Ouais, les synthozoïdes qui sont des vrais humains, mais faits avec des appareils, des éléments inertes. Bon. Et puis, après ça, Wiccan s'éveille, donc le fils de Wanda découvre ses pouvoirs. Il entend la voix de Vision de son père. De son entre guillemets père dans sa tête et il dit à sa mère j'entends Vision, enfin j'entends papa, il y a quelque chose qui se passe. Et là elle s'énerve, tout se fige et elle commence à étendre le Hex pour le garder dans le Hex, en fait.
Ouais, elle va même un peu plus loin,
un tout petit peu. Ouais. cette scène est assez
c'est un bon moment un peu quand même, hein.
Pardon ?
Elle frise tout le monde. J'adorais ce moment où justement elle active ses pouvoirs, elle bloque tout le monde un peu. Tu sais, plus personne ne bouge.
Ouais, tout le monde derrière, est figé. Est-ce que t'as remarqué si les enfants sont figés aussi ?
Non, j'ai pas remarqué. Je suis pas sûr qu'on les voit encore dans le plan.
Ouais, peut-être qu'on voit pas dans cette scène.
Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être besoin de ses pouvoirs pour étendre le Hex et du coup, elle pouvait plus contrôler tout le monde et donc elle se reconcentre dessus. Elle va du coup étendre absolument la zone jusqu'à récupérer l'ensemble des locaux du Sword qui sont juste à côté.
Et on a cette scène délicieuse où ils se transforment tous, ouais.
Génial. J'imagine que c'est comme ça qu'elle les voit.
Le Sword, c'est ça. C'est un clou. Bon, il y a un chapiteau qui peut correspondre aux tentes, effectivement, du Sword. Mais oui, c'est comme ça qu'elle les voit. Elle les voit comme une sorte de cirque de clowns assez inconséquent au final. Mais le truc, bien sûr, qu'on va attendre de voir dans le prochain épisode principalement, c'est Darcy qui est, intégré dans le Hex.
Ouais. Et qu'on nous cache, la transformation, hein, contrairement aux autres. Donc, ça sera pour la semaine prochaine.
Est-ce que tu peux faire une petite prévision ? Qu'est-ce qui se passe avec Darcy ?
Alors là, je sais pas du tout. Alors on a vu un peu ses vêtements dans les posters, parce que tu sais, ils ont des super jolis posters où les acteurs se tiennent derrière un empilement de téléviseurs avec dans chaque tout téléviseur fait, un extrait de la série, et on voit un bout de ses vêtements à l'intérieur de la zone. Ça a pas l'air d'être lié au cirque, mais voilà. Donc, non, j'ai pas de prédiction particulière. T'en as, toi, tu penses que...
Pas vraiment, mais en fait, j'espère juste qu'elle va pas avoir des pouvoirs elle aussi. Tu vois, à un moment, Monica ça suffit, quoi. Les gens qui ont des pouvoirs parce qu'ils passent à travers le Hex, j'espère que c'est parce que Monica a un truc spécifique qui fait qu'elle a été activée par le Hex, mais que c'est pas tout le monde... Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas...
Oui, j'avoue que j'avais pas pensé, effectivement. Je pense pas que tous ceux qui rentrent dedans auront des pouvoirs, ça me semblerait un peu, un peu trop gros. J'imagine que, bon, on verra bien ce qui se passe avec Monica. Peut-être que, d'ailleurs, elle a l'air très, je sais pas comment dire, nonchalante, hein, vis-à-vis de ses tests sanguins et.
Monica
ses tests. Et, ouais, Monica. Je me demande si elle n'a pas quelque chose qui date d'avant et qui aurait pu provoquer le cancer de sa mère et qui, pour elle, a fait d'autres choses. Je sais pas.
Qui aurait provoqué le cancer de sa mère. Oh, ah, mais c'est... Donc, ça serait terrible, ça. D'accord. Peut-être, ouais.
Donc, je ne sais pas. Je sais pas. On verra ce qui nous réserve là-dessus. C'est pas les mystères les plus importants pour moi. Là, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe autour de Pietro, de Wanda et de Vision. Voilà. Et du coup, à l'extérieur du cercle, ne reste que Jimmy et Monica qui sont allés chercher du coup leur copain ingénieur aérospatial. Et il reste Edward avec, je crois, deux ou trois autres agents qui ont pu prendre une voiture et éviter l'extension. Et du coup, c'est pareil, maintenant qu'on a un Edward qui n'a plus toute une armée à sa botte, je ne sais pas trop, lui, ce personnage-là, comment est-ce qu'il va interagir avec le reste de l'histoire, parce que maintenant, il n'a plus de base, j'imagine qu'il n'a plus moyen de regarder ce qui se passe à l'intérieur.
Oui, c'est vrai, peut-être qu'il va finir par appeler, je ne sais pas, les autres Avengers. Visiblement, ça se passe juste après Endgame, juste après la fin de Endgame. Donc, peut-être que les autres sont occupés, tu vois, tout le monde est en train de... Parce que, évidemment, dans tous ces trucs, à chaque fois, tu te demandes, mais pourquoi ils n'appellent pas les gens qui peuvent gérer, quoi. Mais bon.
Ouais, après, moi, j'avais repensé, du coup, il y a Spider-Man 3, non, Spider-Man 2, donc Far From Home, qui, lui, se passe après WandaVision. Et il y a ce moment où, justement, où il y a, donc... j'allais dire Fury, mais du coup, c'est quoi c'est le nom? C'est Talos? Je ne sais plus comment il s'appelle.
Talos, ouais.
Déguisé en Fury, qui va voir du coup Peter Parker pour régler un problème, le problème du film, quoi. Et Peter lui demande, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les autres? Et il avait déjà dit, donc du coup, Thor, il n'est pas là, il est off-world. Il demande que fait Captain Marvel. Talos se fâche en disant, on ne prononce pas son nom.
Je me souvenais plus de ça, ouais, d'accord. Donc, ils ont déjà...
Mais au fait, il n'y a que Peter Parker de disponible pour régler des problèmes d'ordre international, quand même. Donc, voilà, pour moi, il y a clairement... Alors, je ne sais pas qui d'autre pourrait intervenir, mais je pense que les Avengers, ils sont tous un peu fatigués, là. Il y a Hulk, il est plus trop là, il a le bras cramé. Enfin, je ne sais plus qui il reste. Mais bon, je pense que c'est vrai que c'est toujours un peu délicat ces histoires-là, parce que ça, moi, c'est un problème que j'avais avec le MCU très tôt. C'est après Avengers, j'avais du mal à concevoir que chaque héros puisse avoir des problèmes dans son coin sans appeler les autres. Tu vois, je comprenais pas pourquoi finalement Iron Man, pourquoi il passe pas un coup de fil à Thor qui débarque et voilà, quoi, on règle le problème.
Enfin, bah non, mais ils expliquent plus ou moins quand même. Tu vois, non, il n'y a pas le Bifrost, il n'y a pas.
Ils expliquent tout ça, et donc du coup on est toujours dans un entre-deux où c'est expliqué, mais bon, ils peuvent pas non plus couvrir toutes les possibilités, parce que bon,
il faudrait qu'on étudie la chose quand même, parce que au moment de Iron Man 3 après Avengers, Iron Man, il a pas de problèmes. Enfin, tu vois, il a des problèmes à lui avec son PTSD, tu vois. Bon, à la fin, ouais. Il y a le combat contre quote unquote AIM et où il fait exploser toutes ses armures.
Ses armures.
Mais Thor, il est pas là. Et le Bifrost est. Ah non, il le répare, le Bifrost. Bon, bref, je sais pas, peu importe.
Ouais, mais faudrait étudier.
Ouais, la chronologie, exact.
Mais j'ai peur qu'on tombe forcément sur des incohérences, et c'est pas très grave. Ça reste quand même un univers où de toute façon, ouais, il y a de la magie, il y a des choses comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop non plus trop se pencher, parce qu'on va forcément trouver, selon moi, des incohérences.
Évidemment.
Comme dans Retour vers le futur, si tu fais des gros efforts pour regarder toute la temporalité, tu vas probablement trouver des énormes incohérences.
Bien sûr.
C'est pas prévu pour qu'on se penche à ce point, je pense, sur ce genre de problématiques.
Bon, écoute, en tout cas, là, c'est la fin de l'épisode 6 et il nous en reste 3. Et comme on disait tout à l'heure, il risque d'être beaucoup plus long que les épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant, ou alors genre dans la durée du cinquième, qui était à 45 minutes de série vraiment, sans compter les génériques. Donc, moi, j'ai assez hâte, dans quelques jours à peine. Et il y a encore ce qui est bien. C'est qu'il reste encore énormément de questions et énormément de choses à découvrir. Et là, les choses se... En fait, ils n'ont pas attendu de tout révéler pour lancer les choses, pour lancer le shit hits the fan, tu vois. On a encore plein de questions et je me demande même comment ils vont réussir à revenir en sitcom après ce qui s'est passé dans celui-là. À moins qu'ils fassent genre sitcom documentaire à la The Office, tu vois, et que ça soit un peu le bordel partout et que ça soit docu, peut-être, je sais pas.
Le prochain candidat idéal, c'est Modern Family.
Peut-être, ouais, mais...
Pour faire de la sitcom, parce que c'est que des sitcoms familiales, donc après, effectivement, c'est Cassim qui disait ça sur le Discord, et ça me semble évident maintenant.
Ouais, Modern
Family.
Contre,
après Modern Family, donc il reste 3 épisodes, et après ça, je vois pas. Donc je pense qu'après, ça va être un gloubi-gloubulga de choses qui déconnent, etc.
Ouais. Et Modern Family, ça pourrait être intéressant, parce que t'as les interviews face-cam, en fait. Qui peuvent donner des révélations, des indications, des trucs, ça pourrait être pas mal, ouais.
Bon. Dis-moi, Patrick, est-ce que tu te souviens de cette douce époque où on pensait faire un petit podcast de 15 minutes sur les séries de production?
Bon, écoute, on est à presque 50, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Merci beaucoup, Johan, où on peut te retrouver si on veut discuter avec toi de toutes ces théories?
Eh ben, on peut me retrouver soit sur le Discord, soit sur Twitter, @yohant_.
Et pour le Discord, le lien sera dans... Non, le lien est sur notepatrick.com. Si vous voulez participer au Discord, il y a une partie publique où on peut parler du dernier épisode de Super Laser Punch. Donc, vous pouvez discuter avec nous de tout ça. Et pour Twitter, vous pouvez retrouver Johan, le lien vers le compte de Johan dans les notes de l'émission. Vous retrouverez aussi le mien, c'est notepatrick, de toute façon, un petit peu partout, sur Twitter, Facebook, Instagram. Et donc, notepatrick.com pour avoir notamment le lien vers le Discord et tout plein d'autres choses que je fais, comme des podcasts sur la tech ou le jeu vidéo. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ah, j'ai hâte. Ciao, ciao, Johan.
Et ciao.